France Inter.
Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Ils ont fait barrage pour protéger leurs élèves. Les collègues de Dominique Bernard ont fait face aux terroristes le 13 octobre dernier. Des héros qui ne voulaient pas en être, décorés aujourd'hui, journée d'hommage aux victimes du terrorisme. Deux d'entre eux ont accepté de répondre à France Inter. Le bilan de la tempête Monica s'aggrave. Aux 4 morts et 3 disparus dans le Gard s'ajoute une autre victime dans l'Hérault, un homme emporté par la crue du fleuve. L'actualité, c'est encore cette cyberattaque d'une intensité inédite contre les services de l'État. Matignon active une cellule de crise. L'impact est heureusement limité. Le chaos à Haïti. Réunion d'urgence en Jamaïque. Le chef de la diplomatie américaine est sur place. Un accord européen pour les travailleurs des plateformes numériques. Et puis un violon de près de 3 siècles qui passe au rayon X du synchrotron de Grenoble. On vous raconte cette prouesse à la fin de ce journal. Juste après, le débat au téléphone sonne autour du projet de loi pour une aide à mourir annoncée par le chef de l'État. Un seul numéro, 01 45 24 7000.
France Inter.
Il y a plus de héros dans l'ombre que dans la lumière. Cet agent d'entretien, ce prof, ce surveillant. Il y a 5 mois, le jour de l'attaque qui a coûté la vie à Dominique Bernard à Arras, ils n'ont pas hésité à mettre leur vie en danger pour protéger les élèves. Ils sont 5 à s'être interposés, 5 à avoir été décorés aujourd'hui par le Premier ministre Gabriel Attal, qui a présidé la cérémonie annuelle d'hommage aux victimes du terrorisme depuis Arras. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Des héros malgré eux que l'on a très peu entendus, voire pas du tout, et qui revivent avec douleur cette matinée d'octobre.
À commencer par Benjamin Laribie, ce jeune surveillant a été posté à l'entrée au moment du déjeuner.
Monsieur Bernard et les 3 professeurs de sport sont sortis à ma grille. On a entendu hurler 10 secondes après, donc je pensais à une bagarre d'élèves. Et je suis sorti et j'ai vu David Verrag au sol en train de se défendre comme il pouvait. Je me suis mis entre les deux, j'ai repoussé l'assaillant. Au moment où j'ai levé la tête et qu'il était armé de 2 couteaux, on réfléchit pas trop en fait. J'ai évité un coup de couteau, je ne sais comment.
Benjamin Laribie met à l'abri le professeur d'EPS, David Verrag. Il appelle la police et tente de secourir Dominique Bernard qui agonise. L'assaillant se fraye un chemin vers la cour où Christian Berroyer, agent d'entretien, va l'affronter avec une chaise.
Mes collègues et moi, on allait pour aller déjeuner et on a vu un mouvement de foule. J'ai une collègue qui avait commencé à crier, ouais, il a 2 couteaux. Puis moi je suis sorti, j'étais à l'action parce qu'il y avait encore des élèves en difficulté, donc ça a permis qu'ils puissent se mettre à l'abri.
Vous avez trouvé où cette chaise ?
Au réfectoire où je déjeunais en fait. J'ai pris le premier truc que j'avais sous la main.
Un geste instinctif, on l'entend se surveiller, on n'a pas l'impression d'avoir été héroïque. Et comme pour les autres, Sarah, l'attentat a encore de lourdes répercussions psychologiques.
On a vu des larmes et des visages graves ce matin. Christian Berroyer et Benjamin Laribie sont revenus travailler très vite après l'attentat dans ces lieux qui leur rappellent l'absence de Dominique Bernard.
Au début, ça a été compliqué. Physiquement, ça va, mais c'est plutôt niveau moral. Tous les jours, tous les jours, on y pense.
Sans cesse, on nous répète merci, que c'est génial ce qu'on a fait, mais c'est très compliqué à vivre derrière. Beaucoup de flash, beaucoup de cauchemars.
Et Benjamin Laribie confie que le suivi psychologique mis en place lui fait du bien.
Et 3 soignants, psychologues, psychiatres, infirmiers restent présents dans l'établissement tous les vendredis pour ceux qui en ont besoin. L'école est la meilleure arme contre le terrorisme, a dit Gabriel Attal aujourd'hui, contre l'obscurantisme. Ce 11 mars, qui est une journée européenne d'hommage aux victimes, 20 ans jour pour jour après l'attentat djihadiste contre la gare Atocha à Madrid, l'attaque avait fait 192 morts.
À 19h04. Hélène, les termes du débat sur la fin de vie sont désormais posés.
Après plusieurs reports, le chef de l'État a donc précisé les contours du projet de loi qu'il souhaite, non pour légaliser l'euthanasie, le suicide assisté, mais une aide à mourir aux malades incurables. Les mots sont pesés, les conditions strictes. Et si la droite et des soignants expriment déjà leur opposition, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité dit son soulagement. Les choses bougent, il était temps. C'est aussi ce que rapportent avec des nuances les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie à Victor Dolande.
Enfin, les choses bougent, saluent unanimement les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Emmanuel Macron avait promis une loi pour septembre 2023. Les différents reports avaient inquiété ceux qui ont planché pendant des mois sur le sujet.
On peut se réjouir qu'il y ait une annonce qui semble enfin aboutir à quelque chose d'assez concret.
Martial Breton est membre de la Convention citoyenne sur la fin de vie, satisfait donc, même s'il trouve le texte encore trop frileux.
Nos recommandations, elles sont notamment inspiré par le modèle belge, c'est-à-dire une liberté de choix, et donc ne pas conditionner l'euthanasie à l'impossibilité de pouvoir procéder au suicide assisté, mais de dire que l'euthanasie est ouverte au choix à toutes et tous.
Pour prétendre à l'aide à mourir, les patients majeurs devront être atteints d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme. Cette notion justement de moyen terme est trop floue pour Antonin de Bernard.
Quelqu'un peut souffrir d'une maladie pendant 20 ans et donc selon ce point-là ne pourra pas procéder à l'aide active à mourir et donc on les laisse sur le côté. Le problème c'est que en effet c'est très subjectif la question de moyen terme, c'est-à-dire est-ce que c'est 6 mois, est-ce que c'est 1 an, est-ce que c'est 2 ans.
Enfin dernière critique, pourquoi attendre encore 12 à 18 mois pour légiférer, s'impatiente un autre membre de la Convention citoyenne, et de prévenir, on va faire très attention au travail des parlementaires. Pas question qu'il dénature le texte.
Victor Dolande, les députés qui planchent ce soir sur la réforme controversée de la sûreté nucléaire. Le gouvernement veut fusionner l'ASN, gendarme du nucléaire, et l'IRSN, l'expert technique du secteur. Au risque, pointent les détracteurs du projet, de lui faire perdre son indépendance et sa transparence à l'égard du public. Et alors que l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, s'inquiétait il y a à peine quelques jours d'une inquiétante montée des cyberattaques, Matignon communique donc cet après-midi sur une série d'attaques informatiques contre plusieurs services de l'État depuis hier, d'une intensité inédite, même si l'impact est assez réduit à ce stade. Bonsoir Stéphane Jourdain.
Bonsoir Hélène.
Une attaque multiple revendiquée par un groupe bien connu des services de l'État.
Oui, une attaque revendiquée sur son fil Telegram par un groupe qui s'appelle Anonymous Soudan. Attaque qui vise, je cite, les infrastructures françaises interministérielles selon ce communiqué. Alors, plusieurs ministères ont été pris pour cible et la direction de l'aviation civile a connu des perturbations temporaires sur ses ressources bureautiques, selon nos informations. On a pu échanger avec une source sécuritaire française pour qui cette revendication d'Anonymous Soudan est crédible. C'est un groupe que les services connaissent depuis assez longtemps, nous dit-on. Des Russes et des pro-russes, adeptes des attaques par déni de service, jugées très rudimentaires. Le principe de ces attaques, c'est de saturer un réseau avec des millions de requêtes automatisées. Anonymous Soudan est connu pour agir de concert avec un autre groupe familier du renseignement français, Killnet, qui avait piraté le site de campagne d'Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle pour dénoncer, je cite, le soutien de la France envers l'Ukraine. Ce soir, Anonymous Soudan partage sur Telegram des articles de presse français relayant l'attaque informatique comme un premier trophée.
Une cellule de crise a été activée dès hier soir pour déployer contre-mesures et garantir la continuité de service informatique. Impact donc assez réduit à ce stade.
La crise à Haïti, au cœur d'une réunion de crise en Jamaïque.
Alors que la capitale haïtienne, Port-au-Prince, s'est enfoncée encore un peu plus dans le chaos ce week-end en proie à la violence des gangs, ce sont 12 millions d'Haïtiens qui sont pris au piège par ces gangs criminels. Le port, l'aéroport sont fermés. Omar Waman, vous êtes notre envoyé spécial en République dominicaine voisine. En quoi la réunion d'urgence en Jamaïque est-elle si importante ?
Alors les États-Unis, Hélène, qui considèrent que la crise en Haïti requiert une réponse internationale comme l'Ukraine ou la bande de Gaza, ont dépêché à Kingston leur chef de la diplomatie, Anthony Blinken, signe de l'urgence de la situation. Anthony Blinken est chargé avec des représentants de la France, du Canada et des Nations Unies de négocier avec l'opposition haïtienne la mise en place d'une transition politique, mais il y a un grand absent, le Premier ministre Ariel Henry, toujours bloqué à Porto Rico. Ariel Henry est l'homme fort du pays après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Donc l'issue de ce sommet est très incertaine, d'autant qu'Ariel Henry, longtemps soutenu par la communauté internationale, refuse de quitter le pouvoir.
Et en attendant, Omar, la situation ne cesse de se dégrader à Port-au-Prince.
Oui, Haïti est à la dérive. Ces derniers jours, les groupes armés ont attaqué le palais présidentiel, le commissariat central sur le Champ de Mars, symbole du pouvoir, ce qui a poussé l'Union européenne à évacuer ce lundi l'ensemble de son personnel, après celui de l'ambassade d'Allemagne et des États-Unis. Les États-Unis qui ont rapatrié une partie de leurs employés. Ce qui est très inquiétant, c'est que les gangs ont lancé l'assaut, vous l'avez dit, contre l'aéroport et le port de la capitale de poumon, ce qui fait craindre un effondrement de l'approvisionnement de l'aide humanitaire à destination de la population. Il faut également savoir que les hôpitaux sont au bord de la rupture, que les stocks des pharmacies sont épuisés et que près de 400 000 Haïtiens, dont plus de la moitié sont des enfants, ont été déplacés ces dernières semaines en raison des affrontements entre les gangs d'un côté et la police haïtienne de l'autre. Vous voyez, Hélène, Haïti est en train d'imploser.
Omar Waman, en direct de République dominicaine ce soir avec Benjamin Thuot. En Russie, à quelques jours de la présidentielle, la position de Vladimir Poutine n'a jamais semblé aussi solide. Aucun opposant ne parvient à agir sur le sol russe. Alors c'est à l'étranger que la dissidence se fait entendre, l'opposition en exil, à Londres notamment, où la diaspora russe est très importante. Richard Place est notre correspondant.
Alexander Litvinenko a été assassiné sur le sol britannique. Opposant à Poutine, il a été empoisonné au polonium en 2006. Il est mort dans un hôpital londonien. Sa veuve, Marina, a repris le flambeau, à distance, quitte à avoir du mal à faire passer son message. Elle sait que sur place, en Russie, c'est trop dangereux et finalement inutile.
À chaque fois que vous pensez à un nouveau leader d'opposition, vous ne savez pas si c'est une création des services de sécurité ou de Poutine. C'est pour cette raison que je pense qu'il faut un nouveau mode d'opposition. Même si je ne suis plus très jeune, je crois aux nouvelles technologies.
Utiliser des canaux de communication modernes pour toucher la population jeune et urbaine, c'est le travail que mène Vladimir Achourkov, activiste anticorruption, exilé au Royaume-Uni, ami d'Alexei Navalny.
C'est un réseau composé de dizaines de milliers de personnes. Nous communiquons avec des outils Internet qui préservent l'anonymat, donc on ne connaît pas leur nom ni rien. Nous pouvons les aider et coordonner des actions comme une distribution de tracts dans un immeuble jusqu'à échapper à la vidéosurveillance pour mettre le feu à des équipements militaires.
L'élection présidentielle russe à venir ne signifie rien aux yeux de ses opposants exilés. Pour lutter contre le régime Poutine, ils attendent plus de soutien de la communauté internationale. Londres, Richard Place, France Inter.
Le Royaume-Uni est en plein émoi après la diffusion d'une photo de la princesse Kate avec ses enfants censés rassurer la population après une mystérieuse opération de l'abdomen. Sauf que cette photo a été retouchée et au lieu de rassurer, l'inquiétude a redoublé, même si la princesse s'est excusée en disant que c'est elle qui s'est essayée à la retouche.
Les questions après le drame, les drames dans le Gard.
Les intempéries de ce week-end qui ont fait 4 morts, 4 personnes emportées par les rivières en crue, 2 enfants sont encore portés disparus et donc des questions sur ces ponts submersibles empruntés par les victimes, sans parapet, construits à ras de l'eau et à Dionce. Ce pont aurait dû être fermé bien avant que le véhicule s'y engage. C'est une information signée Boris Loumagne.
Dans un rapport publié en 2020 sur les risques liés aux ponts submersibles, le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et la mobilité, rappelle les règles de fermeture du pont de Dionce. Elles sont claires. Quand l'eau de la rivière est à 30 cm en dessous du tablier du pont, des panneaux d'interdiction de circuler doivent être posés et les barrières à l'entrée et à la sortie doivent être fermées. Or, samedi soir, à 22h45, le tablier est sous l'eau, le pont est toujours ouvert. À 23h, les services du conseil départemental posent les panneaux d'interdiction de circulation, mais les barrières restent ouvertes. À 23h30, les pompiers reçoivent un appel de détresse. Un véhicule vient de s'engager sur le pont. À bord, un homme, une femme et 2 enfants. Et ce n'est qu'un quart d'heure plus tard, à 23h45, que les barrières du pont sont enfin fermées. Une question se pose alors. Les services du conseil départemental ont-ils failli? L'enquête ouverte par le parquet de Nîmes devra le déterminer. De son côté, la préfecture du Gard estime qu'une réflexion autour de la sécurité de ces ponts submersibles devra avoir lieu prochainement dans le département.
Boris Loumagne, envoyé spécial de France Inter dans le Gard, et une 5e victime a été retrouvée dans l'Hérault à Pézenas, sa voiture emportée par le fleuve. Le préfet ne parle plus de petits dealers, mais de narcotrafiquants à Rennes, dans le quartier du Blône. Après la fusillade qui a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche, pendant plusieurs dizaines de minutes, 2 groupes de personnes armées de fusils mitrailleurs se sont tirés dessus. Des renforts policiers sont toujours sur place.
Aux États-Unis, les influenceurs au Capitole.
Ceux qui utilisent TikTok et qui se mobilisent contre la possible interdiction du réseau social examinée par la Chambre des représentants cette semaine. Le texte réclame en fait à TikTok de couper les liens avec la maison mère, le géant chinois ByteDance, sans quoi la plateforme se verrait interdite sur le sol américain. Bonsoir Laurélie Carive.
Bonsoir.
Mais les utilisateurs n'ont pas dit leur dernier mot.
Depuis jeudi, c'est une déferlante de vidéos.
This is insane. It's kind of
Il faut
scary.
Dire que TikTok a tout fait pour en envoyant à chaque utilisateur américain un message l'invitant à appeler directement le Capitole pour protester. Certains élus se sont retrouvés submergés d'appels.
Les gars, va falloir se battre. Les membres du Congrès essaient de nous priver de notre liberté d'expression, tout comme ils essaient de nous priver de nos armes. C'est inconstitutionnel.
Le texte adopté à l'unanimité en commission par des démocrates et des républicains donne un peu plus de 5 mois à ByteDance pour vendre TikTok. Au-delà, l'appli ne pourra plus être téléchargée. Le but, c'est de forcer la plateforme à rompre avec la Chine au nom de la sécurité nationale des États-Unis, argument souvent balayé d'un revers de main sur fond de discours complotistes.
Pourquoi ils n'ont pas les couilles de dire la vérité? Ils veulent interdire TikTok tout simplement parce que c'est le moyen le plus rapide, le plus facile qu'on ait jamais eu pour partager des infos et des points de vue. C'est ça qui leur fait peur.
Tandis que le président Joe Biden a fait savoir qu'il promulguerait la loi si elle obtenait le feu vert de la Chambre des représentants, Donald Trump n'a pas attendu pour prendre le contre-pied. Sans TikTok, le risque c'est de faire grossir Facebook, véritable ennemi du peuple, dit-il, lui qui pourtant avait pris un décret en 2020 pour interdire TikTok.
L'Aurélie qu'arrive, l'expulsion de l'imam Iqiyoussen confirmée par le tribunal administratif qui juge que l'imam a commis des actes répétés de provocation explicite et délibérée à la discrimination et à la haine, justifiant son expulsion. À Bruxelles, après plusieurs semaines de blocage, un accord politique vient d'être trouvé pour renforcer les droits des travailleurs des plateformes numériques. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Bruxelles, on parle de Uber, de Deliveroo, 28,5 millions d'Européens travaillent dans le secteur et il y avait du progrès à faire sur les conditions de travail.
Effectivement, les 27 veulent accorder aux travailleurs des plateformes une présomption de salariat. Selon la Commission européenne, environ 5,5 millions de travailleurs indépendants en Europe devraient pouvoir ainsi modifier leur statut. L'Europe fixe une série de critères, les États peuvent en rajouter. Le fait qu'une plateforme fixe les niveaux de rémunération, qu'elle supervise à distance les prestations, ne permettent pas à ses employés de choisir leurs horaires ou de refuser des missions, imposent l'uniforme ou encore interdisent de travailler pour d'autres entreprises. Si un travailleur correspond à au moins deux critères, il sera considéré comme un employé et aura ainsi droit à ce que prévoient les législations nationales, salaire minimum, temps de travail, indemnité maladie ou normes de sécurité. Il reste une étape dans la procédure avant le feu vert définitif parce que la France a demandé à la Commission européenne d'ajouter une note de bas de page pour spécifier que le changement de statut ne soit pas automatique mais qu'il y ait une procédure à suivre.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Le modèle allemand d'un passerail pour tous, il avait inspiré l'ancien ministre des Transports, mais il ne se fera pas en France. Son successeur freine l'idée et propose plutôt un dispositif estival réservé aux jeunes pour voyager sans limite sur le réseau TER et Intercité. Et puis le train, c'est aussi cette petite croix dans le calendrier, mercredi matin 6h. C'est à cette date et à cette heure que la SNCF va mettre en vente les billets de l'été et il y en aura 400 000 de plus pour les Jeux Olympiques. On en vient enfin à faire cette expérience à la croisée de l'histoire, de la musique et de la science. L'histoire de l'un des violons les plus célèbres du monde, il canonné, vieux de près de 3 siècles, conservé à Gênes, transporté tout spécialement en France pour une sorte d'examen de santé approfondi au rayon X du synchrotron de Grenoble. Image 1000 fois plus précise qu'un scanner d'hôpital, dans l'idée de comprendre les outrages du temps pour mieux le restaurer. Sophie Bécherel, notre spécialiste science, ne pouvait pas rater ça.
Les images sont époustouflantes. D'abord, une reconstitution globale de l'instrument en 3 dimensions, puis une vue de l'intérieur du violon qui laisse apparaître des détails de 35 millièmes de millimètre, et enfin un zoom sur le bois où l'on voit les parois des cellules végétales. Paul Taforo est le responsable de la ligne de lumière BM18 qui a permis ce résultat.
Sur ce violon, ce qu'on a fait, c'est la microtomographie, donc en gros comme un scanner médical en 1000 fois plus précis. Le but étant de voir toute la structure tridimensionnelle jusqu'au niveau cellulaire du bois. D'une part, pour comprendre un peu mieux comment il a été construit, mais surtout, vu que c'est un violon qui est très âgé, mais qui joue encore, de s'assurer qu'il est encore en état de jouer et de vérifier s'il y a certaines réparations à faire ou pas.
Luigi Paolazzini est physicien au synchrotron. C'est lui qui a coordonné la venue d'Il Canone à Grenoble. Et comme il est aussi luthier amateur, il était particulièrement ému de découvrir l'état de ce joyau du patrimoine italien.
Il est dans un état magnifique. Personnellement, moi, je ne m'attendais pas de voir un violon avec une table entière. Le fond en état pratiquement d'origine et surtout le vernis. Le vernis n'était jamais retouché.
Ces images haute définition vont-elles permettre de mieux comprendre le son si particulier d'Ilkanone ? Déjà, elles révèlent l'épaisseur du fond, 6,5 mm, soit celle d'un violoncelle. L'instrument est réputé difficile à jouer, mais malgré ses 280 ans, il continue parfois de quitter Gênes. En octobre prochain, il participera à un concert symphonique à Londres, peut-être devant le roi Charles.
Ilkanone sous les doigts de Francesca Dego ici, et vous retrouvez cette histoire évidemment sur franceinter.fr.